Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission qu'on retrouve avec grand plaisir toutes les semaines. Un jour, un livre, un auteur, Philippe Nonis, Diego Arabal, bonjour.
Bonjour Diego Arabal, bonjour Philippe Subercaz.
Bonjour les deux Philippe, bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
Alors, ce qu'il y a de bien dans cette émission, c'est que nous voyageons et là, je pense que nous partons pour la capitale, Philippe Nonis.
Exactement, nous partons pour la capitale pour le début de cette 14e saison de Un jour, un livre, un auteur. Nous allons parler d'un recueil de deux nouvelles que j'ai trouvé particulièrement bien écrit, tant il est servi par une écriture étincelante. Son auteur est avocat. Il a été bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2010. Puis il a été président du Conseil national des barreaux de 2012 à 2014. Et l'ouvrage qu'il a écrit emprunte beaucoup à l'univers professionnel qui est le sien. La jeune captive de Christian Charrière-Bournazel, publié aux éditions Marie-Romaine. Bonjour Christian Charrière-Bournazel.
Bonjour monsieur.
Comme je l'ai précisé dans mon propos liminaire, vous êtes avocat et tenez-vous bien, je me suis toujours posé la question de savoir comment pourrait évoluer la relation professionnelle entre un avocat et sa cliente dès lors qu'une relation intime se tisserait entre eux, et c'est justement le thème de la première nouvelle de votre recueil de nouvelles « La jeune captive ». J'ai trouvé cette histoire passionnante et je vais lire, avant qu'on commence l'interview, la quatrième de couverture de « La jeune captive » publiée aux éditions Marie-Romaine. Si la passion amoureuse est à 18 ans le prix à payer pour l'apprentissage de la joie et du plaisir, elle est 20 ans plus tard un départ pour des galaxies inconnues à travers l'infini de l'espace et du temps. Et tandis que le jeune fauve au cœur tendre n'a rien à craindre de ses larmes à l'heure où elle féconde sa vie future, l'autre quitte pour toujours et sans bagage le monde fini de sa maturité. Un avocat de renom, respectable et envié, tombe passionnément amoureux de sa jeune cliente, incarcérée brièvement pour une faute vénielle. C'est alors que commence la descente aux enfers de cet homme foudroyé. Plus qu'un nouvel avatar du démon de midi, il s'agit ici d'un portrait tout ensemble pudique et sans complaisance, servi par une langue étincelante, ce que je confirme par rapport à la quatrième de couverture écrite par votre auteur. Alors, une question pour commencer, Christian Charrière-Bournazel. Est-ce que toute ressemblance avec un avocat ayant réellement existé ne serait que pure coïncidence ?
Non, non, il n'y a pas de coïncidence, cher monsieur. C'est une histoire que j'ai en effet vécue en 1986. Ça fait déjà 40 ans.
D'accord.
Et j'ai connu cette jeune personne sur la recommandation de quelqu'un qui lui avait proposé de me prendre comme conseil à l'époque où il était détenu. Et je n'avais pas soupçonné un instant que je puisse concevoir pour elle, une passion qui n'est pas allée au-delà de ce que j'ai ressenti et à quoi elle n'a répondu que par la négative. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, puisque je n'ai pas mélangé ce qui était de l'ordre de la défense que je lui devais comme professionnel et ce qui était de l'ordre de ma vie intime, personnelle, avec très certainement quelque chose qui me renvoie à Racine, Jean Racine, lorsque Brutus dit à Néron, on n'aime pas Seigneur si l'on ne veut t'aimer. Et cette histoire fait que ma vie a été totalement transformée à partir du moment où elle m'a dit non, et je ne lui ai posé la question qu'après que j'avais terminé ma mission auprès d'elle comme professionnel. Ma vie a été totalement bouleversée, le monde est devenu gris, noir, je ne voyais partout que des vieillards, et j'étais moi-même dans une sorte d'autre monde, en effet, une autre galaxie, celle de la souffrance, de la déception, de la grisaille définitive d'un cœur brisé.
Alors vous auriez pu en faire, c'est là où je trouve que votre œuvre est vraiment remarquable, parce que vous auriez pu en faire une biographie qui aurait été, somme toute, je dirais, peut-être pas ennuyeuse, mais en tous les cas, on se serait dit, bon, ok. Sauf que là, vous en faites une histoire étincelante, Donc, en parlant d'un avocat qui est, qu'on n'identifie pas comme étant vous, je me suis posé la question hein, tout au long du roman. Je vais lire pour qu'on ait une idée, un peu pour donner aux auditrices et aux auditeurs une idée de votre écriture. Je vais lire le début de La jeune captive, donc c'est en page 11 de votre roman. L'année de mes 40 ans me fut symboliquement pénible. La certitude qu'il me restait à courir, que le plus court du chemin me rendit plus désespérante la stérilité de mon passé. À l'évidence de mon déclin s'ajoutait le renoncement forcé à ce que je n'avais plus ni le temps ni les moyens de devenir. J'avais rêvé théâtre, littérature, je mourrais avocat. Je disais adieu à mon adolescence à l'heure même où se dessinaient les rivages de ma mort. Entre ce départ et cette fin, il n'y avait pas eu de place pour une vie d'homme. De quoi cependant me serais-je plaint ? Une situation convenable dans le monde, les beaux dossiers ne m'avaient pas manqué, comme l'avait écrit un journaliste, ni les honoraires confortables, ni même quelques engagements publics risqués. Je jouissais de la considération de mes amis, de mes clients, de mes confrères. Respectable et envié, je l'étais aussi pour ma famille. Trois fils réussis, une femme charmante. Avec cette naïveté qui ne juge que l'apparence, le monde me voyait doté de tout ce qu'il faut pour être heureux. Et du reste, je ne refusais ni le plaisir d'un manuscrit ou d'un dessin, ni celui d'un voyage lointain, ni la restauration à grands frais d'une maison de famille. Point de liaison tapageuse. Tout concourait à l'harmonie d'une vie bien conduite, jusque dans ses désordres nécessaires et discrètement maîtrisés. Je souffrais cependant. De quoi ? L'avenir m'était ouvert, je le sentais fermé. Mon élection au Conseil national de l'ordre laissait présager une candidature au bâtonnat. On murmurait aussi que les ministres de la gauche, dont plusieurs étaient mes amis ou mes clients, me réserveraient le moment venu une carrière politique. On ne m'imaginait embarrassé que par l'abondance des choix. Or, je n'avais point l'ambition aussi active qu'étaient nombreuses les opportunités. On voit ici la qualité de votre écriture qui, tout le long, hein, illumine les deux nouvelles que vous avez écrites. On parlera de la deuxième nouvelle tout à l'heure, donc une écriture qui a une très grande musicalité. Qu'est-ce que représente pour vous la qualité de l'écriture dans un texte, Christian Charrière-Bournazel ?
Elle est essentielle, d'abord parce que on séduit le lecteur avec des mots que l'on choisit, que l'on ordonne, et qui doivent frapper à la fois son esprit et éventuellement son cœur. Mais surtout, je le dis quelquefois, je suis un littéraire égaré dans le droit. Je suis devenu avocat parce que mon père pensait que je devais l'être, comme mon grand-père, comme mon arrière-grand-père. Je suis d'une génération d'avocats de père en fils, qui ne sont pas des avocats parisiens d'ailleurs, je suis le premier à être venu à Paris. Et j'avais très tôt, dès l'âge de 4 ans, revêtu une robe d'avocat et une toque qu'on avait faite sur mesure pour moi. Mais j'aime mon métier bien sûr, simplement j'ai fait des études de lettres avec passion, et j'ai surtout depuis l'enfance aimé les lettres, aimé les poèmes, les textes en prose. Et j'ai appris tout ce que j'ai pu apprendre par cœur et qui ont habité depuis des années ma vie intérieure. Et donc l'écriture est pour moi le meilleur moyen de faire transmettre aux autres non seulement la beauté, mais les vérités auxquelles on est attaché et que l'on a envie de partager.
Alors, je vais relire un extrait de votre roman, parce que de votre recueil de nouvelles, pardon, et notamment de cette première nouvelle, donc La jeune captive, hein, je rappelle, hein, donc un recueil de nouvelles publié aux éditions Marie Romaine. Je vais lire le chapitre 9, c'est en page 66, et j'ai beaucoup aimé la façon dont vous arrivez à exprimer au travers des mots, avec le pouvoir des mots, ce qui est ressenti à ce moment-là et que l'on ressent avec une force terrible quand on lit cette nouvelle et qu'on va la terminer, où on se dit, en la terminant, moi c'est ce que je me suis dit, waouh ! Je me suis dit, là franchement, il m'a emmené loin. Je lis donc ce passage en page 66. Ton silence m'avait soudainement dépossédé de toi. du monde aussi, puisque tu t'étais confondu avec lui, de moi qui ne vivais qu'en toi. Il m'a lentement détruit de l'intérieur comme un poison dévorant et insupportable qui ne ferait pas mourir. Il s'est durci, semaine après semaine, jusqu'à se calcifier plus dur et plus inaltérable que le granit ou le marbre. Il pèse désormais sur moi, à qui il ne reste plus aucune énergie pour souffrir, comme la dalle soigneusement scellée sur une tombe. Tu as choisi de devenir quintessence de l'absence et du silence. Tu n'as finalement pas plus de consistance que celle de ce sépulcre. En vain imaginerais-je aujourd'hui ta réalité charnelle. Tu es sans visage, sans regard, sans voix. Je ne te cherche presque plus. Par-delà le supplice et comme anesthésié, je contemple celui qui avec toi achève de mourir. Je nous regarde mourir. Quelque effort que je fasse, tu ne parviens plus à renaître dans ma mémoire. Je puis bien te nommer, te parler, te faire asseoir en face de moi inutile. Celui qui t'aime à hurler achève en moi de mourir. Je ne vais avoir aucune pitié de lui, je ne l'entendrai bientôt plus. Je ne suis ni résigné, ni consolé, ni amer. Simplement, je n'ai plus de force. Je parviens, exténué, à la fin de ces lignes. Il me fallait jusqu'à leur terme les griffonner douloureusement, comme l'on va à travers les larmes, au bout de son désespoir. On a vraiment là, je le disais, Christian Charrière-Bournazel, une nouvelle vraiment exceptionnelle. On lit énormément, hein, d'un jour à livrer un auteur, donc on a l'occasion, hein, de pouvoir comparer et mettre en perspective effectivement ce que l'on lit. Là, La Jeune Captive, donc aux éditions Marie-Romaine, c'est vraiment un bijou, quoi, hein, sur la page.
Tout à fait, vous me flattez, je suis tout à fait confus de vos compliments qui me touchent.
Voilà, et c'est... Mais je trouve que derrière, vous... Dans ce que vous avez exprimé tout à l'heure, vous avez réussi à faire passer à travers le temps, avec ce pouvoir des mots, effectivement, ce que vous avez ressenti. Et c'est vraiment ce recueil de nouvelles, je le recommande vraiment, avant qu'on parle effectivement de la deuxième nouvelle de votre recueil de nouvelles. Et vous voyez, quand j'ai terminé la première nouvelle, je me suis dit, bon, ok, j'ai attaqué la deuxième nouvelle. Et je me suis dit... mince, peut-être qu'elle ne va pas être aussi bien et que je vais peut-être m'ennuyer. Et en fait, j'ai trouvé la deuxième nouvelle, Martyr de l'absurde, encore meilleure que la première. Alors la deuxième nouvelle, Martyr de l'absurde, hein, ça met en scène l'amour fou entre un homme et une femme qui ont la particularité d'être cousins germains dans un monde qui rejette cette relation. Même question que pour la précédente nouvelle, comment vous est venue cette idée d'écrire ce très beau texte qui est quand même un manifeste de tolérance, je trouve, pour l'amour. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce texte d'un amour entre un cousin et une cousine?
Parce que c'est une histoire de famille. L'homme est en fait l'un de mes deux grands-pères et la cousine dont il était amoureux, qui était elle-même amoureuse de lui, je l'ai rencontrée à la fin de sa vie dans le Carmel d'Autun où elle avait décidé, ou on l'avait décidé, de s'emmurer pour le reste de ses jours. Et cette histoire poignante, je l'ai entendue raconter très discrètement par mon grand-père et la religieuse elle-même, lorsque je lui ai rendu visite, elle était déjà très âgée, m'avait parlé de lui en me disant « Votre grand-père m'aimait beaucoup ». Et cette histoire poignante, je ne vais pas la paraphraser maintenant, m'a touché depuis que je l'ai connue. Simplement, j'ai romancé quelque chose qui n'a peut-être pas existé. C'est l'idée qu'ils auraient pu, à un moment donné, avoir une intimité qui aurait fait qu'elle tomba enceinte. Ce n'est pas certain. Mais en tout cas, c'est la seule explication que j'ai trouvée pour expliquer comment, après qu'on les eut fiancés, on est décidé de les faire rompre. Et j'ai pensé que si on les avait fiancés, c'est parce que il n'était pas pensable qu'elle mit au monde un enfant sans avoir été mariée. Mais ça, je l'ai peut-être inventé. Ce qui est surtout essentiel, c'est cette passion partagée que l'esprit du temps la perversion religieuse, la religion n'est pas perverse, mais on peut en avoir une perception perverse, a rendu séparé définitivement alors qu'ils s'aimaient et qu'ils auraient pu être les plus heureux du monde.
C'est vraiment très émouvant ce que vous nous racontez, Christian Charrière-Bonderzel. On vous écoute avec beaucoup de ferveur. Je pense que, je ne sais pas si Diego Arrabal sera d'accord avec moi, avec beaucoup de ferveur dans le studio, parce que ces deux histoires qui remontent de très loin, qui en fait sont deux histoires vraies, c'est la question que je me suis posée en le lisant. Je me disais, mais c'est Boris Vian disait cette histoire est vraie parce que je l'ai inventée. Ben vous, c'est le contraire. C'est vous n'avez pas eu besoin d'inventer cette histoire. Elle était vraie, sauf que vous avez su mettre les plus beaux mots pour en parler. Je vais lire un extrait également de cette deuxième nouvelle qui m'a énormément touché, que j'ai trouvé vraiment touchante. Je l'ai relu une deuxième fois pour le plaisir des mots, par rapport à la beauté de l'histoire, par rapport à la tolérance qui s'en dégage, c'est-à-dire on dit à un moment donné, ok, un cousin, une cousine s'aime, ok, il peut y avoir de la consanguinité, mais à un moment donné, il y a de l'amour entre les deux. Et c'est vrai que vous posez un certain nombre de choses à l'intérieur qui sont très émouvantes, et je vais lire un extrait, moi, vraiment, qui m'a énormément touché, c'est en page 123 de votre recueil de nouvelles. Donc, Martyr de l'absurde. Donc, c'est la jeune captive, hein, suivie de Martyr de l'absurde, publié, je le rappelle, pour les auditeurs et les auditeurs, aux éditions Marie Romaine. Je lis cet extrait. Anne-Marie fit une première lettre postée par la tourière pour informer Henri du stratagème. Ainsi, pendant 20 ans, ils s'écrivirent au moins une fois par mois en s'appelant mon oncle, ma nièce. Cet artifice les conduisit à échanger de rôles et de masques comme au temps de leur théâtre. Leurs échanges furent empreints d'une affection sage et retenue. Henri la tenait au courant des péripéties de sa vie quotidienne, de l'évolution de ses fils, puis de leur progéniture. Il évoquait parfois les temps heureux de leur enfance sans commettre d'anachronisme. Elle lui envoyait des poèmes pleins de paix, de lumière et d'espérance où l'objet de sa tendresse avait pour nom Jésus. L'année où elle fêta son jubilé après 50 ans de vie monastique, Henri tint à assister à la cérémonie dans la chapelle. Il entendit chanter les saintes femmes de l'autre côté de la grille voilée de noir. La sœur Tourière vient lui dire qu'il pouvait converser avec Anne-Marie au parloir. Il s'y rendit. Une autre grille voilée de noir les séparait. Elle parla à la première, le remerciant d'être venu et prenant de ses nouvelles. Elle lui proposa d'écarter le voile. « Pour mon jubilé, je suis autorisée à m'affranchir de la clôture. Nous pourrons ainsi nous voir à nouveau, » dit-elle. « Non, » lui répondit Henri. « Ta voix n'a pas changé, la mienne non plus. Je suis un vieux monsieur de près de 80 ans. Tu as vieilli, toi aussi. Mais nos voix sont restées les mêmes. Je te contemple sans te voir comme je t'ai toujours connu. » Ce fut leur dernière rencontre. Il retourna à la propriété familiale qu'il ne quitta plus. Il y vivait de ses souvenirs, elle peu à peu privée de ses jambes, poursuivit sa vie de moniale, pieusement apaisée. Vous avez dans ce passage que j'ai lu donc donné à cette personnage, ben le personnage de la cousine de votre grand-père. Et j'ai eu le sentiment, en lisant cette nouvelle, que c'est un hommage que vous rendez à trois personnes. À votre grand-père, à sa cousine... Et la troisième personne, c'est l'amour qu'ils ont ressenti l'un pour l'autre. Est-ce que je me trompe en ayant ressenti ça en lisant votre texte ?
Non, non, vous dites vrai. Et si j'ai tenu à tenter de l'écrire pour que ce souvenir ne se perde pas, c'est parce que mon grand-père m'en a parlé et c'est lui qui m'a raconté cette visite le jour où, fêtant son jubilé, elle avait proposé autorisé à le faire, à abandonner la clôture, se regarder. Et j'avais trouvé tout à fait émouvant l'idée que l'on puisse non pas se repaître du visage de l'autre qu'on a aimé, mais d'être transporté par le fait que la voix est la même, comme si l'âme, sans être atteinte par le temps, demeurer éternellement celle de l'enfant. l'adolescent frappé par l'amour et pétri d'absolu. Et ce détachement du cœur et du corps méritait d'être rappelé.
Ah oui, vraiment, moi je recommande. Hein, c'est très émouvant de vous entendre parler, franchement, quand vous parlez de ce livre, parce que je retrouve l'émotion qu'il y a dans ce roman, ou avec le pouvoir des mots. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous posais la question de savoir quelle importance vous accordiez à l'écriture. En fait, vous avez mobilisé la langue pour pouvoir, à un moment donné, faire ressurgir une histoire du passé, très franchement, qu'il aurait été dommage de ne pas exhumer. Parce que lire ces deux histoires, je pense que je vais relire l'intégralité de votre recueil de nouvelles, certainement au cœur de l'hiver, quand je serai tranquillement assis au coin du feu, parce que la beauté des mots, la beauté de l'histoire, il n'y a rien de choquant dans ce qu'on lit, la façon dont vous l'écrivez. Voilà, moi, ça m'a transporté. Franchement, je recommande votre recueil de nouvelles aux auditrices et aux auditeurs, Christian Charrière-Bournazel, parce que...
Je suis très touché de ce que vous me dites, et je suis un peu confus, car je ne suis pas sûr de le mériter, mais en tout cas, merci.
Voilà, c'est vraiment La Jeune Captive, donc suivie de Martyr de l'Absurde, donc aux éditions Marie-Romaine. Vraiment, je recommande ce recueil de nouvelles. Vous avez écrit d'autres ouvrages, Christian Charrière-Bournazel, que celui-ci?
Oui, j'ai écrit également chez les éditions Marie-Romaine un livre sur Georges Bernanos que j'ai intitulé « Georges Bernanos, pèlerin infatigable de l'espérance ». J'ai consacré mon mémoire de maîtrise de lettres classiques à ce personnage inouï de Bernanos. J'avais intitulé « L'adolescent dans le romanesque de Bernanos ». Et puis j'ai eu l'occasion de faire des conférences sur Bernanos, et j'ai fait, sous la direction de l'éditrice Madame Marie-Romaine Panier, j'ai fait le livre qui en fait reprend tout ce que j'avais écrit et pensé sur cet auteur admirable, et elle l'a édité, et c'est un livre auquel personnellement j'ai attaché beaucoup de soin et d'importance. Et puis j'ai également écrit un autre livre qui n'a rien à voir, qui est un livre d'imagination. Je suis très hostile comme avocat à la prison, et surtout à la manière dont elle est gérée et vécue. Et donc, j'ai écrit un journal qui est intitulé « Perpétuité ». C'est le journal d'un condamné. Alors, il n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé, il est sorti de ma tête, mais qui, jour après jour, raconte ce qu'il vit. Sans oublier, évidemment, la gravité de son crime, mais la perpétuité à laquelle il est voué, il préfère lui substituer la mort et il se suicide. Voilà ce troisième livre. Puis j'ai fait des livres qui étaient dans un autre domaine, sur le droit ou la liberté d'expression, qui est la liberté d'expression chez Ballant, et puis chez Stock, la rage sécuritaire à l'époque où le président de la République voulait durcir encore le sort des détenus. Mais tout ça, c'est un autre sujet. Et si vous voulez, quand on a le bout de la littérature pour son artifice ou ses artifices, mais pour ce qu'elle permet d'exprimer, d'explorer en soi-même et d'exprimer pour les autres, on doit s'intéresser à la fois au rêve et à la vie. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, sachant que l'avocat que je suis, puisque vous l'avez dit, médite toujours la phrase de Sénèque sur l'éloquence. L'éloquence, c'est cultiver le beau pour exprimer le vrai. Voilà ce qui est ma devise.
C'est une très belle phrase. On va terminer cette phrase là-dessus. Alors, on voulait juste informer les auditrices et les auditeurs qu'on va revenir vers vous. Alors cette fois vers Maître Charrière-Bournazel. On va revenir. Charrière-Bournazel. Maître Charrière-Bournazel. On va revenir vers vous dans quelques semaines, mais plus toujours par rapport aux mots, pour interroger l'avocat sur comment un avocat fait pour concevoir une plaidoirie, parce que on est sur ce que vous venez de dire, sur le texte que vous venez de citer, et on va vous recontacter effectivement pour reparler de ça. Et je pense que le livre dont vous nous avez parlé à l'instant sur Perpétuité, je pense que c'est un roman qu'on aimerait bien chroniquer aussi, parce que ben, je pense que le thème des prisons, c'est pas forcément un thème aujourd'hui qu'on entend beaucoup dans le cadre des élections à la présidentielle, mais je pense qu'il y a un vrai sujet sur le fait que des personnes soient enfermées, sur comment on travaille à leur réintégration sociale. J'avais juste dernièrement cette réflexion à une personne qui me disait, bon voilà, là j'ai eu un dossier d'une personne qui sort de prison, mais j'ai dit oui, mais si elle a payé sa dette, j'ai dit je vois pas pourquoi vous ne le recruteriez pas pour lui faire payer la dette une deuxième fois, quoi. Je pense qu'il y a un vrai sujet et je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire à nouveau là-dessus.
Surtout que je pense que c'est un angle mort de la politique aujourd'hui, c'est la situation carcérale.
Bien sûr, et je suis à votre disposition pour en parler, car par moments, je pense qu'on regardera la prison telle qu'on la conçoit et qu'on la fait vivre aujourd'hui, au XXIe siècle, on la verra dans quelques années ou quelques décennies, avec le même œil que celui qu'on jette aujourd'hui sur le supplice de la route, l'ancien régime.
Tout à fait. Je pense que oui, tout à fait. C'est vrai que quand on lit notamment le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo où les mises à mort avaient lieu sur la place publique, hein, ouais. Pour nous qui sommes pas très loin de Toulouse, hein, la place Saint-Georges aujourd'hui à Toulouse, hein, qui est une place où viennent tous les étudiants, c'est la place où on mettait à mort les gens, et c'est là où, d'ailleurs, où Jean Calas a été mis à mort. Et quand j'en parle, moi, de temps en temps, quand je vais sur Toulouse, ma fille y habitait, elle me dit « Ah bon, mais je le savais pas. » Et bien, je lui dis « Voilà. » J'ai dit « Maintenant, tu sauras que c'est sur cette place. » Et il faut pas oublier tout ça. C'est pour ça que je suis d'accord. On va revenir vers vous, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire encore, Maître Charrière-Brunazel.
Mais je m'en réjouis et je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Et
merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Vous vouliez dire un mot, Diego Rabal.
Je voulais simplement saluer Maître Christian Charrière-Brunazel d'être parmi nous et puis lui dire le plaisir que j'aurai à discuter avec lui sur l'univers carcéral lorsque nous le recevrons la prochaine fois.
Et bien alors on va faire ça.
Bon, voilà. Merci infiniment.
Merci beaucoup, merci. Christian Charrière-Brunazel. Merci et à très très bientôt. Au revoir.
Au revoir, messieurs. Enfin,
merci, au revoir.
J'ai bien senti que ce sujet vous
intéressait. Eh bien voilà, Philippe Subercal, c'est la fin de cette émission.
J'ai bien senti que ça vous intéressait fortement.
Donc, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission, Diego Rabal.
Alors, ce sera une nouvelle émission avec un invité surprise et ce sera une émission sur les romans policiers.
Ah, mais voilà, c'est votre choix que c'est votre...
C'est mon choix.
Ah ouais, c'est votre choix, ça, ouais. C'est votre spécialité, même. Ok, on se dit à la semaine prochaine, alors.
Allez, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.